Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Abou Bakr al-Baghdadi est mort. Donald Trump a annoncé hier l'élimination du chef de Daesh au cours d'une opération des forces spéciales dans le nord-ouest de la Syrie. Bonjour Pierre-Jean Luizard.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous avez notamment publié Le piège Daesh aux éditions La Découverte. La mort d'al-Baghdadi à cet endroit, autrement dit au nord-ouest de la Syrie, est-ce une surprise ?
Oui, c'est une surprise et d'ailleurs nous n'avons aucun moyen de vérifier la véracité des faits. On sait que les Kurdes ne sont pas les bienvenus dans la région d'Idlib et que Abou Bakr al-Baghdadi était également malvenu dans une région où l'État islamique n'avait pas une implantation importante. Donc nous sommes obligés de nous en remettre aux affirmations des Américains et peut-être le verra-t-on ressurgir à l'occasion d'une nouvelle vidéo.
Y a-t-il, donc si on considère que les informations données par Donald Trump hier sont exactes, matière à retracer l'existence de Baghdadi, quelles étaient les principales caractéristiques de celui qui est présenté aujourd'hui comme le leader défunt de Daesh, Pierre-Jean Luizard?
Alors, on le présente souvent comme le maître souverain d'un mouvement terroriste international. En fait, Abou Bakr al-Baghdadi n'avait qu'un pouvoir exécutif virtuel, puisque l'État islamique l'utilisait essentiellement comme un porte-drapeau pour maintenir l'unité d'un mouvement, et que le pouvoir exécutif au sein de l'État islamique se situait bien ailleurs, notamment dans des conseils Majlis Shura, des conseils de consultation qui rassemblaient localement des autorités locales, tribales, chefs de quartier en Irak, anciens militaires de l'armée de Saddam Hussein, l'ancien leadership musulman sunnite, et c'est là bien plus que dans la personnalité d'un homme dont tout le monde a souligné le caractère insignifiant et surtout ignare en matière de religion, qu'il faut situer le véritable pouvoir au sein de l'État islamique. Donc je dirais que la disparition d'Abou Bakr al-Baghdadi prive l'État islamique d'un porte-drapeau, mais qu'il sera très facile de le remplacer par un autre porte-drapeau.
Mais alors comment expliquez-vous dans ces conditions, si cet homme avait une personnalité falote, comment expliquer qu'il soit devenu la vitrine officielle du mouvement, qu'il ait été présenté comme le leader de Daesh, Pierre-Jean Luizard?
Oui, c'est justement pour cette raison qu'il a été choisi. On le comparait souvent à Ben Laden, il n'y avait pas matière à comparaison, car Ben Laden avait un véritable leadership sur Al-Qaïda et appartenait à une famille de grands entrepreneurs saoudiens très influents. Ça n'était pas le cas d'Abou Bakr al-Baghdadi et c'est justement son caractère insignifiant qui a fait que l'État islamique l'a choisi, et ça n'est pas lui qui dirigeait l'État islamique, c'était encore une fois cette assez extraordinaire capacité de l'État islamique de déléguer localement à des autorités locales qui n'avaient besoin d'Abou Bakr al-Baghdadi que pour maintenir l'unité d'un mouvement, ce qui a été une véritable réussite et une première. On l'a vu notamment à Fallujah, où Al-Qaïda en Irak avait échoué face aux troupes américaines et où, au contraire, l'État islamique va s'engager dans une remise du pouvoir à des autorités locales, des chefs de quartier, des chefs de clan, chose qu'il va répéter à Mossoul, ce qui explique que l'État islamique ait pu conquérir le tiers de l'Irak sans pratiquement tirer un seul feu.
C'était un homme qui était présenté comme étant excessivement prudent. Comment sait-on ce que l'on sait sur lui, sur Baghdadi, Pierre-Jean Luizard?
Eh bien, on sait en fait peu de choses. On sait que c'était quelqu'un qui venait d'un milieu très défavorisé, originaire de Fallujah, qu'il avait participé à différents mouvements djihadistes salafistes, notamment Al-Qaïda. Et c'est peut-être une chose dont on peut le créditer du point de vue de l'État islamique, c'est d'avoir rallié Al-Qaïda en Irak à l'État islamique, puisque Al-Qaïda en Irak, contrairement à la Syrie, a rallié l'organisation qui va s'imposer sur la scène de salafiste djihadiste aux dépens d'Al-Qaïda en Irak et dans la vallée de l'Euphrate en Syrie.
Et alors aujourd'hui, donc, cet homme serait mort, dit Donald Trump. Le mouvement, par ailleurs, Daesh est en mauvais état. Qu'est-ce que l'on peut imaginer comme avenir pour ce mouvement terroriste, Pierre-Jean Luizard ?
Alors, je ne dirais pas que le mouvement est en mauvais état. Il avait prévu la disparition de son assise territoriale. Et il compte avant tout sur l'incapacité des acteurs régionaux et internationaux à traiter la crise et l'effondrement des États arabes moyen-orientaux, notamment de l'Irak, de la Syrie et du Liban, à laquelle nous assistons aujourd'hui à travers des mouvements inédits, d'ailleurs sans aucune représentation politique. Et c'est là, je dirais, l'essentiel de ce qui compte dans l'actualité, beaucoup plus que la mort d'un homme qui ne va pas changer les rapports de force. On sait qu'Al-Qaïda a laissé la place à un État islamique qui a compris, je dirais, la portée historique de la crise que vivent les États arabes aujourd'hui et de l'incapacité ou de l'absence de volonté des acteurs qui agissent aux dépens des populations locales, de traiter le problème à la racine et de privilégier des intérêts à court terme.
Donc ça veut dire, en conclusion, Pierre-Jean Luizard, qu'il reste un espace important pour Daesh ?
Il reste un espace important pour Daesh quand on voit les manifestations à Bagdad, dans le sud irakien, ou à Beyrouth, protester contre des États qui sont considérés comme faillis, corrompus, et qui sont incapables de se réformer. C'est le principal atout aujourd'hui de Daesh, de pouvoir surfer sur une crise qui n'en finit pas et que personne n'a la volonté de résoudre.
Merci beaucoup Pierre-Jean Luizard. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le piège Daesh. C'est aux éditions de La Découverte.